Mathieu Charrier, c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir le bal ce soir face à Jules et Catherine Meurice, demi-dieux, on peut le dire, de la bande dessinée française. Vous avez choisi un sujet courageux ou con. Les trois minutes qui suivent nous le diront.
C'est une commande de votre rédactrice en chef qui se trouve à ma droite.
C'est qui ma rédactrice en chef? Ah, c'est Eva, ma rédactrice en chef. Ah, d'accord. Mais j'apprends.
Oui, parce que déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que la bande dessinée, vous savez, elle est née au 19e siècle, donc bien avant le cinéma. On parle aujourd'hui de 9e art pour la bande dessinée, mais c'est né même avant le 7e art. À l'époque, en Europe, c'était évidemment dans les journaux satiriques, donc ça se présentait sous forme de bande dessinée réellement, c'est-à-dire que c'était des petits dessins qui succédaient sur une bande. On était encore loin de l'époque de la bulle, vous savez, les textes, ils étaient écrits en dessous de l'image.
Ah oui,
vous
n'aviez
pas, les personnages ne parlaient pas dans les bulles. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a les grands journaux américains qui commencent à en faire un média de masse parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une concurrence acharnée entre tous les journaux et ils se disent une manière d'attirer un nouveau lectorat, ça va être de mettre ces dessins dessinés, on va dire, ces bandes dessinées. Et Joseph Pulitzer, rien que ça, est le premier à publier dans son journal, le New York World, à la fin du 19e siècle, la première bande dessinée américaine en couleur. C'est-à-dire la première bande en couleur, c'est Pulitzer. Ça vous montre un petit peu d'où on part. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, il y a les comics. J'essaie de le faire rapidement, mais il y a les comics américains qui commencent à vendre, vous savez, quelques centimes aux jeunes, et notamment aux jeunes soldats qui vont partir avec leurs comics. Ah. En Europe, début aussi des hebdomadaires. Vous pensez notamment au Petit 20e en Belgique, le Petit 20e.
Tintin au pays des soviets.
Oui, alors là, vous lisez la feuille, mais vous saviez quand même que Tintin était né dans le petit 20e.
Pas du tout, je ne savais pas, c'est une quiche et je l'avoue.
Les hebdomadaires qui vont continuer sur des décennies, en 89, jusqu'à Pilote qui va aller jusqu'en 89, il y a Moebius avec toute là aussi l'émergence d'une bande dessinée plus indépendante et plus underground en France. Et puis, évidemment, au Japon, milieu du 20e siècle, c'est l'émergence des fameux mangas qui aujourd'hui portent le secteur. Donc voilà, vous avez une bande dessinée comme ça qui, tout au long du 20e siècle, va se généraliser à travers le monde et dans différentes cultures.
Mais leur question, aujourd'hui, Mathieu, qui lit de la BD en France?
Tout le monde, ou presque. Il y a 8 millions de Français déjà qui achètent de la BD régulièrement, c'est-à-dire plusieurs albums par an, c'est énormissime, c'est quasiment le même nombre de Français qui achètent des romans, donc on est sur un média de masse, parce que vous savez, la BD, on a tendance à penser que c'est toujours des jeunes boutonneux qui lisent ça dans leur chambre avec des chaussettes sales,
pas du tout,
c'est ce que disait Jules tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un média qui aujourd'hui touche tout le monde. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en bande dessinée, vous avez la majorité des lecteurs qui sont des lectrices, c'est-à-dire une courte majorité.
C'est déjà le cas pour les romans, non?
Oui, c'est déjà le cas pour les romans, mais c'est pareil, là, je reviens à l'image qu'on peut se faire du jeune gamin qui lit Astérix aux toilettes. On est très largement sorti de ça aujourd'hui. En France, vous avez plus de 5000 nouveautés bande dessinée qui sortent, je vais y arriver, chaque année. Ça a été multiplié par 10 en une grosse vingtaine d'années, donc vous avez une offre qui s'est démultipliée. Et puis, qui lit de la bande dessinée, majoritairement des CSP+ également. Donc là aussi, ça tord un petit peu une idée reçue, c'est-à-dire que c'est pas, là encore, le jeune ado prépubère qui lit de la bande dessinée dans son coin. C'est aujourd'hui, la bande dessinée est un média de masse, c'est un secteur qui va bien, plus 13% de chiffre d'affaires en 2017. Donc voilà, on lit beaucoup de bande dessinée, notamment en France.
Et c'est le manga qui se vend le mieux, paraît-il.
C'est vrai que c'est le manga qui, disons, progresse le plus et qui aujourd'hui porte le secteur de l'édition. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, 70, surtout 80.
Mais Jules,
90,
ça se vend bien aussi. Hein.
Jules, ça se vend très
ça
bien.
Ça se vend très bien, parce que là, j'ai vu son nouvel appartement. Ça a l'air de vendre très, très bien, quand même. Je sais pas,
vous savez, Jules a repris Lucky Luke, notamment cette année.
Ah, ça doit être pour ça.
Ça se vend bien,
Lucky Luke.
Mais c'est vrai que le manga, dans les années 80-90, vous avez eu toute une série de mangas qui sont arrivés sur les chaînes françaises. Et donc, nous, ma génération, on a été biberonnés au manga. Donc forcément, quelques années plus tard, c'est du manga qu'on achète et qu'on lit. C'est aussi des jeunes de cette époque-là qui sont aux commandes dans les maisons d'édition, qui donc produisent du manga. Et c'est vrai que vous avez un vrai secteur manga en France. À Angoulême, ils ont même été obligés de créer ce qu'ils appellent l'espace manga, Manga City, je crois même de souvenir, tellement c'est un genre qui prend de plus en plus de place. Et cette année, quand vous regardez les principales expositions du Festival d'Angoulême, il y a le tiers des expos, c'est des expositions autour du manga au sens large. Alors manga, attention, c'est pas juste de la bagarre, vulgaire, vous savez, là aussi, faite à peu de frais, etc. Vous avez aujourd'hui des mangas formidables, je pense à Taniguchi ou à d'autres. Vous avez des mangas qui sont des véritables romans graphiques.
Mathieu, je vous sens très optimiste sur la bande dessinée. Il y a juste une question, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais il y a des auteurs de bande dessinée qui apparemment galèrent.
Il y a la majorité des auteurs de bande dessinée qui galèrent. Il y a plus d'un auteur sur deux qui vit même pas du SMIC aujourd'hui en France.
C'est ça le problème.
Mais c'est la stratégie aussi des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils sortent beaucoup de titres, je disais plus de 5000 titres, pour se dire plus il y aura d'offres, plus les gens vont en acheter, ce qui est vrai. Mais évidemment, plus il y a d'offres, moins les gens achètent, chaque titre se vend de moins en moins. Alors, quand on sort des BD effectivement de Jules ou de Catherine Meurice, qui sont des bandes dessinées qui fonctionnent, c'est vrai que vous avez des auteurs qui parfois peuvent travailler 2-3 ans sur une bande dessinée pour gagner 10 000 euros. Donc c'est difficile. Il y a un tiers des auteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte du... Mais quand vous regardez, juste pour finir, quand vous regardez, moi ce que je trouve très très positif, c'est quand vous regardez les BD qui se vendent le mieux, évidemment, il y a Astérix, 1,5 million, il y a Lucky Luke, notamment quand c'est Jules qui le reprend, évidemment. Donc il y a toutes les grandes séries qui cartonnent, mais il y a aussi des Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet. Marion Montaigne, il y a quelques années, personne ne la connaissait. Elle vend des bandes dessinées aujourd'hui comme des petits pains. Il y a tout un tas de jeunes auteurs, quand vous regardez la BD d'Emile Ferris, qui est une américaine, alors qu'il y a eu le Fauve d'Or Angoulême, etc., mais qui est une BD qui est compliquée à prendre en main, ça cartonne. Donc aujourd'hui, vous avez toute une génération aussi de plus jeunes auteurs qui marchent, sortis des Largo Winch, des Black et Mortimer, etc., qui sont des marques qui cartonnent.